Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, il faudrait apprendre à vivre heureux?
Je crois qu'il faudrait apprendre, oui, parce que je suis un vieux monsieur de 73 ans et je découvre avec stupéfaction l'habileté incroyable que nous avons les uns et les autres à nous rendre malheureux. Je sais bien qu'il y a des raisons objectives, des problèmes de travail, de vie conjugale, des séparations, des pertes, etc. Mais au-delà de ces incidents qui peuvent surgir dans la vie de chacun, je suis frappé de la propension de chacun d'entre nous, peut-être, à, je mets ce mot entre guillemets, à se pourrir la vie. Ça veut dire à mettre à jour ce que j'appelle des auto-saboteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un auto-saboteur ? C'est une conduite, un comportement, une parole que je vais produire et qui va rigoureusement à l'encontre de ce que je voudrais. Exemple, je vis avec vous, je vous adore et j'ai peur que vous me quittiez ou que vous en aimiez un autre. Alors, je vais m'accrocher à vous, je vais vous étouffer et vous allez me quitter. Je vais déclencher ce que justement je redoute.
Est-ce que l'on peut dire qu'au XXIe siècle, il est peut-être plus difficile d'être heureux qu'au XXe siècle ou bien avant ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que sur de nombreux plans, je crois qu'il est plus facile d'être heureux au XXe siècle et au XXIe siècle, en particulier sur le plan matériel. On n'a plus à faire des kilomètres pour aller chercher l'eau au puits, allumer le feu tous les matins, à aller à l'école, ce que j'ai fait dans ma jeunesse, à faire 3 kilomètres à pied pour aller à l'école, etc. Bon. Mais sur d'autres plans, et pas les moindres, il y a quand même tellement de contraintes aujourd'hui, tellement de conditionnements, que je crois, oui, qu'il est difficile d'être heureux, et j'ai une formule pour cela. Il est difficile de se réapproprier un pouvoir de vie sur la façon dont on se nourrit. Il ne faut pas être dupe, c'est les multinationales qui concoctent ce qu'on va manger dans les 10 prochaines années, ce sont d'autres multinationales qui concoctent le nombre de mètres carrés de soleil ou de sable qu'on devra consommer, de champs de neige, etc. Donc nous avons plein de conditionnements qui pèsent sur nous. Et c'est un des enjeux de notre société, d'un côté, un mouvement de consommation, d'uniformisation, de nivellement. Regardez, à la sortie d'un lycée, ils ont tous le même uniforme.
Oui. Blue jean,
Nike, chemise qui dépasse, etc. Bon. Donc, un mouvement de nivellement, et en même temps, quand même, et je vais le souligner, c'est les femmes qui sont à l'origine de ça. C'est vraiment un mouvement de réappropriation d'un pouvoir de vie sur cette énorme pression qui existe. C'est les femmes qui font bouger les communications humaines aujourd'hui. Les hommes sont peut-être un peu plus encore frileux, un peu en retrait, mais enfin ils se réveillent. Vous savez pourquoi ils se réveillent ? Parce qu'ils sont quittés.
Dans l'urgence, alors. Alors dites-nous, pourquoi est-il si difficile d'être heureux ? Vous avez des réponses à apporter dans votre livre.
Oui, je montre, vous savez, j'écris 60 livres, je ne propose jamais de recettes ou de solutions. En matière de relations humaines, il n'y a jamais de solutions, il n'y a que des évolutions. Mais je montre des chemins, je montre des pistes possibles qu'il est possible de prendre, quel que soit son âge. Moi, je me suis réveillé tard, mes enfants rient avec moi, ils me disent « Papa, jusqu'à l'âge de 35 ans, t'étais un véritable cro-magnon !» Vraiment. Donc, il y a des chemins possibles. Alors, je vais vous donner les 4 ancrages. Apprendre à s'aimer, je vais les nommer tous et puis je fais un commentaire sur chacun. Apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à se responsabiliser, apprendre à être fidèle à soi-même. Apprendre à s'aimer, c'est pas facile dans une culture judéo-chrétienne où si vous commencez à vous accorder de l'attention, de l'intérêt, on vous traite d'égoïste, d'égocentrique, etc. On vous laisse croire que c'est les autres qui sont plus importants que vous. Donc vous voyez, apprendre à s'aimer d'un amour de bienveillance, d'un amour de tolérance, d'un amour de respect. Les gens aujourd'hui ne s'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a autant de dépressions nerveuses. C'est pour ça qu'il y a autant... En France, on est les champions du monde de la consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs. C'est un véritable scandale. Il faut commencer à apprendre à s'aimer. Et c'est possible. Moi, je ne mesure pas le 1m85 que j'aurais rêvé. Je mesure 1m69,5. Ah, ce demi-centimètre qui me manque pour être heureux. Vous voyez ? Non. Eh bien, je suis cet homme-là, et voilà, je ressemble pas à Robert Redford. Bon. Deuxième ancrage, apprendre à se respecter. Ça veut dire à dire non. J'ai appris à dire non à 37 ans. à 37 ans. Jusqu'à l'âge de 37 ans, je ne savais pas dire non. J'avais peur de faire de la peine, j'avais peur de blesser, j'avais peur d'être rejeté. J'ai appris à dire non. Voilà, ce que tu me demandes n'est pas bon pour moi, je ne suis pas dans cette énergie-là, etc. Troisième ancrage, apprendre à se responsabiliser. Apprendre à se responsabiliser, ça veut dire arrêter de se victimiser. Arrêter de se victimiser, sortir de la cistana, arrêter d'accuser le gouvernement, Dieu, le pape, Monsieur Bush ou les terroristes, etc. Apprendre à se responsabiliser, ça veut dire je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Ça aussi, ça m'a sauvé la vie. À l'âge de 14 ans, le médecin qui m'a dit, après avoir passé 5 ans dans le plâtre, « Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie. » Eh bien, si je m'étais laissé définir par lui, je ne serais pas devant vous, là, aujourd'hui. J'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. Et aujourd'hui, je marche sur mes deux jambes. Donc, vous voyez, c'est ça. Je ne suis pas responsable de la tuberculose osseuse que j'ai eue, mais je suis responsable de ce que je vais en faire. Quatrième ancrage, apprendre à être fidèle à soi-même. Parce que si je prends l'exemple du couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est une double fidélité. Fidélité si vous êtes ma partenaire, fidélité à vous, fidélité à moi. Vous, fidélité à moi, fidélité à vous. Tant que ces deux fidélités cohabitent, on peut rester 90 ans ensemble. Mais si à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus fidèle à vous-même en restant avec moi, vous êtes dans un conflit. Ça, c'est le conflit des femmes de ma génération. Elles sont restées 30, 40 ans dans des relations dans lesquelles elles n'étaient plus fidèles à elles-mêmes.
Elles se sont sacrifiées.
Elles ont payé un prix cher. Je vais vous dire les chiffres. 60% des femmes, 6 femmes sur 10 dans ma génération, je rappelle, j'ai 70 ans, on a opéré la poitrine, le ventre, l'utérus. Je ne veux pas ça pour mes filles. Je ne veux pas ça pour mes filles, ni pour les femmes que je vais aimer dans les 70 prochaines années.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas aussi une culture du tout pour soi, d'être très égoïste, dans le mauvais sens du terme?
Non, c'est vrai que certains... Mais ça, c'est, je veux dire, c'est épisodique, c'est en réaction. On a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pendant des années, sitôt qu'ils commencent à s'intéresser à eux-mêmes, on les traite d'égoïstes et d'égocentriques. Non, alors des fois c'est avec un peu d'excès, c'est vrai que le mouvement de pendule bascule, mais après ça va se stabiliser à une juste place. Non, ce n'est pas de l'égocentrisme ni de l'égoïsme que d'apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à s'occuper de soi. Et je me bats depuis 40 ans pour ça, nous payons trop cher, vous n'êtes pas surpris du nombre de cancers. Vous n'êtes pas surpris de ces somatisations. Qui avait entendu parler du SRAS il y a 3 ans? Personne. Pourquoi le SRAS est arrivé? Je vais vous le dire. Parce que nos immunités naturelles sont en train d'être de plus en plus défaillantes. Malgré les progrès de la médecine, malgré les incroyables succès de la chirurgie, nos immunités naturelles, ce qui fait que dans les prochaines années, si on n'apprend pas mieux communiquer avec soi-même, parce que derrière être heureux pour soi, il y a tout le problème de la communication. Si je ne sais pas communiquer avec moi-même, je ne sais pas non plus communiquer avec autrui, et donc j'enclenche un cycle de malentendus, de tensions, de conflits, de déceptions, de frustrations, de souffrances.
Vous aviez dit, je crois, dans vos précédentes conférences, qu'il faudrait donner des cours de communication à l'école. On pourrait aussi donner des cours de bonheur.
Peut-être pas, parce que le bonheur est individuel. Ça veut dire, ce qui vous rendra heureux, vous, n'est pas du tout ce qui me rendra heureux, moi. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de planter des arbres, par exemple, de lire un livre, d'écouter de l'opéra, ou de me mettre sur ma terrasse au soleil. Bon, j'ai des bonheurs relativement simples. Mais apprendre la communication à l'école, alors oui, ça, et si vous avez des enfants, battez-vous, parce que c'est le seul antidote à la violence, la communication. Regardez autour de vous, regardez autour de nous, la violence et donc l'insécurité. Donc si je suis en insécurité, je ne peux pas être heureux, je suis sur la défensive, je ne suis pas ouvert à l'imprévisible, au surgissement des miracles que contient le quotidien. Donc vous voyez, tout ça est lié. Donc pas d'école pour apprendre le bonheur, mais des écoles, oui, pour apprendre la communication. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, apprendre à mieux communiquer, mieux partager, mieux échanger, avoir des relations en réciprocité.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme heureux?
Je le suis plus souvent, Oui, ça j'ose le dire, je suis plus souvent que je ne l'étais jusqu'à l'âge de 35 ans. Jusqu'à l'âge de 35 ans, je n'ai jamais été heureux. J'étais sans cesse dans le réactionnaire, j'étais dans la persécution. Les autres m'en voulaient, ils ne m'aimaient pas, j'étais pas beau, je faisais pas le 1m85, etc. Je ressemblais pas au verre de fort. Et bon, les blondes ne me regardaient pas. Donc, je me. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que je cultivais. Que je gratouillais ma propre souffrance. Je crois qu'aujourd'hui, oui, j'ai appris à être heureux. Vous savez, il faut le dire aussi, le bonheur n'est pas un état permanent. Le bonheur est quelque chose de très éphémère. Mais il faut savoir qu'il passe plus souvent autour de nous qu'on ne le croit. Si nous savons l'accueillir, si nous savons entrer dedans.